Mesdames, Messieurs, bienvenue à Monde. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux chercheurs qui sont en relation avec le département Integer. Ça fait référence à l'intégration. C'est un mot latin ou anglais, ou comme on voudra. Le département Integer de l'Institut Convergence d'Immigration que je dirige et qui a son siège provisoire au Collège de France. Nous accueillerons en premier lieu Jean-Luc Primon. Jean-Luc Primon est donc chercheur à l'URMIS, qui est une des principales unités de recherche sur les migrations en France, une unité du CNRS, mais qui est commune avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et l'Université de Paris Diderot et de Nice. Et donc Jean-Luc vient de Nice ce matin même, il s'est levé à 4h du matin, pour être d'attaque, et il va nous parler de l'enquête Théo, l'enquête trajectoire et origine, qui est la grande enquête de référence sur l'intégration d'une part et les phénomènes d'exclusion et de discrimination de l'autre, une enquête qui a été faite en 2008-2009, et Jean-Luc prendra le temps de vous décrire, de vous rappeler un petit peu les caractéristiques fondamentales de cette enquête. 2008-2009, ça peut paraître un peu ancien. Il y a un nouveau projet, Théo, un Théo 2, qui est en cours de route, qui est en expérimentation en ce moment, et qui devrait donc, au fond, 10-11 ans après la première enquête, renouveler nos connaissances sur le sujet. Jean-Luc nous parlera donc de la perception des discriminations et de l'expérience des discriminations, quel lien entre les aspects objectifs et les aspects subjectifs de la discrimination telle qu'elle est vécue par les immigrés. Et nous aurons ensuite un exposé en anglais, alors peut-être qu'on fera à la fin une traduction synthétique rapide, pourquoi pas, on verra si le temps le permet. Donc Graciela Moraes vient, alors elle est à la fois à l'Université de Rio, qui est une des universités les plus prestigieuses du Brésil, et à l'Institut des Relations internationales et du développement de Genève. Donc c'est une chercheuse tout à fait internationale et qui travaille de longue date avec l'équipe l'unité de recherche sur les migrations internationales et les minorités, qui est à l'INED et qui est dirigée par Patrick Simon, ici présent. Alors, quelques mots un petit peu sur le sujet. Nous, bien sûr, on va... vous savez que le mot « race » a été... Il y a un vote à l'Assemblée, mais il faut que le Congrès entérine tout ça, puisque c'est quelque chose qui doit être inscrit dans la Constitution. Les députés ont fait disparaître le mot « race » de l'article 1er de la Constitution, qui explique qu'on ne peut pas faire de différence entre les citoyens à raison de... il faut qu'ils soient traités sans distinction d'origine, de race et de religion. Donc la race était évoquée de façon négative dans ce texte, mais néanmoins, on a voulu faire supprimer le mot. Alors, moi, je suis contre cette suppression, mais pour une raison un peu simple, ça me fait penser, si vous voulez, cette police des mots. Quand j'étais jeune, il y avait une pièce de théâtre de Sartre qui s'appelait « La paix, trois étoiles, respectueuse ». C'était la putain respectueuse. Alors, selon les époques, Gallimard a imprimé le texte avec le mot « putain » en toutes lettres, ou le mot « paix » avec trois étoiles. Ça a varié, il y a eu trois ou quatre périodes. Et je me souviens qu'adolescent, j'ai demandé à mon père « mais qu'est-ce que ça veut dire, la paix, trois étoiles ?» Là, c'était... Et bon, j'ai eu la révélation. Est-ce qu'on va devoir dire « sans distinction de R, trois étoiles » C'est un peu ça le problème. Est-ce qu'on peut combattre quelque chose sans le nommer? Est-ce que l'on peut combattre la discrimination sans essayer de se mettre par une expérience de pensée ou par une expérience plus objective dans le cerveau des discriminateurs pour essayer de reconstituer un peu leur façon de penser? Donc c'est un sujet qui n'est pas facile. Mon opinion n'est pas nécessairement partagée par tout le monde, loin de là, puisque le Parlement a voté en sens contraire. Et il va falloir quand même qu'on réfléchisse à ça. Évidemment, sur le fond, la race n'est pas quelque chose qui est scientifiquement établi, tout le monde le sait. Et vous allez voir qu'au cours de cet exposé, on va utiliser le mot « racisé ». Alors, je sais que le mot « racisé » fait frémir d'horreur les amoureux de la langue, mais de temps en temps, il n'est pas mauvais d'insister sur le fait que tous ces comportements, ce sont des processus. La race n'existe pas en soi, elle est le résultat d'une réduction, d'un processus. De la même façon, on parle aujourd'hui dans les études sur l'esclavage, non plus simplement des esclaves, mais des esclavisés. En anglais, on a « enslavement », qui désigne l'opération de réduction en esclavage. On a cette vieille expression « réduire en esclavage », qui veut bien dire qu'il n'y a pas des esclaves comme ça, tout naturellement, de toute éternité. Eh bien, le racisme aussi, c'est une réduction à la race, et cette réduction est en même temps une construction. Et de temps en temps, eh bien, il faut le rappeler, alors ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser 20 fois le mot « racisé » dans chaque page, mais il est important que les chercheurs, de temps en temps, rétablissent cette vérité, que ce sont des opérations de réduction, ce sont des opérations sociales de construction. On a des quantités de qualité, de propriété, les uns et les autres, et être réduit à sa couleur de peau, être réduit à ses apparences physiques, c'est évidemment une opération dont il faut étudier les mécanismes. Et ce n'est pas simple. Est-ce que c'est la couleur qui, en soi, provoque une espèce de répulsion? Est-ce que la couleur de la peau est simplement une espèce de marqueur d'une distance culturelle qu'on voudrait réduire? Les interprétations, là aussi, sont multiples et ça peut varier au cours du temps. Mais finalement, ce sont deux variantes, je dirais, de la même opération de réduction consistant à traiter une partie de l'humanité comme étant finalement faisant à peine partie de l'humanité, comme une partie un peu vile de l'humanité. Alors, c'est sur ces sujets assez graves que vont se succéder donc les deux orateurs. Et j'invite tout de suite Jean-Luc Primon à prendre la parole et à nous dire un petit peu ce que l'enquête Trajectoire et Origine nous dit de toutes ces questions.
Tout d'abord, merci à François Héran pour cette invitation. Merci également à l'Institut Migration de me permettre d'évoquer ces sujets ce matin. Et merci également à tous ceux qui sont venus entendre ces conférences. J'ai intitulé cette présentation « L'autodéclaration des expériences de racisme et des discriminations des immigrés et descendants d'immigrés ». Les apports de l'enquête Trajectoire et Origine, on a déjà un petit peu dit ce qu'était l'enquête Trajectoire et Origine, je vais y revenir. Je veux tout d'abord préciser que c'est un travail en fait collectif que je vais présenter ce matin, et notamment un travail qui est conduit actuellement en commun avec Patrick Simon, qui est le responsable du département Integer. Et nous travaillons actuellement d'ailleurs à la rédaction d'un article qui s'appelle « Mesurer le racisme, l'apport des enquêtes quantitatives à la sociologie du racisme ». Il y a un certain nombre d'autres références que je vous communique immédiatement, sur lesquelles je me suis appuyé pour cette présentation et desquelles j'ai extrait d'ailleurs un certain nombre de résultats. D'une part, un chapitre de l'ouvrage qui a publié l'essentiel des analyses issues de l'enquête Trajectoire et Origine que j'ai rédigée donc avec Christelle Hamel et Maud Lenné, qui s'intitule « La place du racisme dans l'étude des discriminations » et qui est un chapitre donc de l'ouvrage qui s'appelle « Trajectoire et Origine, enquête sur la diversité des populations en France » et également l'ouvrage donc Trajectoire et origine qui présente l'essentiel des analyses et des résultats de cette enquête sur laquelle on va revenir. Tout d'abord, un mot sur les différents points qui seront abordés ce matin. En premier lieu, donc, je vais essayer de présenter un petit peu quel est le cadre problématique au fond de l'objet de cette intervention. Apporter quelques éléments sur les caractéristiques de l'enquête Trajectoire et Origine, c'est son objet, ses particularités, son originalité, et on abordera ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet en abordant la question des discriminations et, comme on vous l'a dit, la question des discriminations qui sera approchée sous un angle notamment dans son aspect, on pourrait dire, subjectif. Mais on verra comment la mesure objective et la mesure subjective peuvent éventuellement se combiner. Les deux derniers points, expérience du racisme et discrimination situationnelle, traitent précisément des résultats dans l'enquête Théo qui aborde cette question de l'expérience subjective du racisme. Et une des questions que l'on s'est posée, notamment avec Patrick Simon, c'est comment s'articule en fait dans les réponses et chez les enquêtés que l'on a interrogés, les 22 000 personnes qui ont été interrogées dans l'enquête trajectoire et origine, ben, comment s'articulent ces expériences à la fois de discrimination et de racisme? Est-ce que les deux se confondent ou non? Est-ce que les deux sont parfaitement, deux expériences sont parfaitement distinctes? Et donc il y a une série de questions que l'on se pose avec pour visée, in fine, je dirais, de pouvoir opérationnaliser au fond mieux ces notions dans les dispositifs d'enquête statistique. Hein. Ce travail ou cette recherche, cette réflexion en même temps est animée par un souci qui est de mieux mesurer hein, ce phénomène que l'on appelle le racisme. Je vais en dire un petit mot en présentant justement les éléments qui sont à l'origine de ce travail, les éléments problématiques qui sont à l'origine de ce travail. Alors, en France, on dispose aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, de recherches importantes et de travaux de recherche empirique hein, importantes sur la question des discriminations. L'entrée en lutte, je dirais, contre les discriminations depuis la fin des années 90 a incité à favoriser hein, le développement des recherches sur les discriminations. Tout le monde a en tête notamment ce qu'on appelle les tests de discrimination, les fameux testing hein, qui permettent de mesurer, par exemple, les problèmes de barrières à l'emploi et de discrimination à l'embauche, suivant une méthode qui est quasi-expérimentale, hein, puisque très souvent on fait ça à partir de CV et on présente des CV à des employeurs. Les CV sont tous comparables, mais ils se distinguent par un point précis qui serait le critère précisément incriminé. Donc on dispose en France de nombreux tests de discrimination aujourd'hui, tous, enfin je le rappelle quand même, hein, lorsqu'on prend pour cible notamment les personnes qui sont issues de l'immigration maghrébine, tous concluent à de la discrimination à l'embauche pour les jeunes issus de l'immigration maghrébine, et cela depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Donc, sur la question des discriminations, on dispose de recherches importantes et l'enquête Théo, notamment, a permis de progresser. C'est pas la seule, il y a d'autres enquêtes, de grandes enquêtes de statistiques publiques, je pense notamment à l'exploitation de l'enquête emploi, par exemple, qui ont permis de mettre au jour hein, des écarts de situation, ce qu'on peut appeler des inégalités d'origine, que l'on peut imputer, hein, que l'on peut imputer à des discriminations sur le marché du travail, à l'embauche, mais aussi éventuellement au cours des évolutions de carrière. Il y a un certain nombre de recherches très pointues, par exemple, sur les questions de discrimination salariale avec des modèles économétriques assez sophistiqués qui permettent de prendre une mesure la plus pure possible, je dirais, hein, de ces écarts de salaire entre populations en fonction de leurs origines. Mais pendant que se développaient, je dirais, ces recherches sur les discriminations, et on pourrait revenir sur les raisons à la fin de cette présentation, les travaux sur le racisme, qui sont des travaux sur le racisme, ont été beaucoup plus lents à se développer et en vérité ont été un peu éclipsés, en tout cas les recherches empiriques, par cette question de la discrimination. Et notamment sur le plan des enquêtes statistiques, les travaux sur le racisme, les recherches sur le racisme sont au fond relativement peu nombreuses en France, surtout si on compare la situation française aux pays notamment anglo-saxons, où il y a une forte tradition d'enquête sur ces questions-là. Donc, en partant de ce constat, on note depuis quand même quelques temps, quelques mois, quelques années à peine, hein, un regain d'intérêt pour cette mesure du racisme. Et c'est au fond cette question qu'on va un petit peu aborder aujourd'hui et qui est un peu le fil conducteur de mon intervention. Alors, les enquêtes, la recherche empirique sur le racisme, alors il y a de nombreux travaux en France et des travaux de très grande qualité sur l'histoire des idées, hein, notamment du racisme. Il y a une recherche historique qui est très vivante, je dirais, sur la question du racisme. En revanche, lorsqu'on regarde du côté des sciences sociales et qu'on cherche, les recherches empiriques, elles sont nettement plus restreintes. Hein. Alors, il y a eu ces dernières années quand même un grand nombre de thèses sur le sujet, à peu près, je crois qu'on a comptabilisé entre 25 et 30 thèses en suivant les mots-clés qui ont porté sur ces sujets depuis la fin des années 90. Mais ces travaux sont d'abord des travaux plutôt qualitatif, d'enquête de terrain, et qui analyse notamment les interactions. Il y a beaucoup de travaux, par exemple, sur ce qu'on appelle les relations au guichet, hein, dans des situations de travail ou dans des situations de la vie courante, où on va analyser de près, notamment, la mise en œuvre de formes de catégorisation et l'activation de préjugés, par exemple, dans les interrelations et dans les relations personnelles. En revanche, les enquêtes statistiques, à vocation statistique, je dirais, qui ont une visée quantitative, les enquêtes qui ont une visée quantitative, portent avant tout sur la mesure des opinions, des préjugés et des stéréotypes, et surtout les préjugés et les opinions. Et le meilleur exemple, je dirais, de ce type de dispositif, c'est le sondage annuel qui est commandé et soutenu par la CNCDH, hein, la Commission consultative nationale consultative sur les droits de l'homme. C'est un sondage qui existe depuis les années 90, à partir duquel, d'ailleurs, des chercheurs ont construit un indice synthétique qui s'appelle l'indice de tolérance, et que l'on peut, qui a été largement publicisé, notamment par la presse et les médias, depuis un certain nombre d'années, et on peut suivre année après année l'évolution, notamment, hein, des opinions des Français sur ces questions, et la plus ou moins grande tolérance des Français vis-à-vis de certaines catégories de population en France. C'est une grande tradition dans l'étude du racisme que, en fait, d'analyser les représentations et les opinions des populations potentiellement racistes. On assiste depuis un certain nombre d'années à un déplacement de l'objet et on s'intéresse, je dirais, de plus en plus, et c'est un mouvement que je crois international, hein, on s'intéresse aujourd'hui de plus en plus au point de vue de ceux qui subissent le racisme. Et non plus seulement hein, à ceux qui sont racistes ou potentiellement auraient des opinions ou des idées racistes. Et on voit donc émerger un certain nombre de travaux, notamment à travers les enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, qui portent notamment sur des questions de sécurité ou autres, un certain nombre de travaux qui prennent en considération ou qui essaient de repérer en fait et d'objectiver, disons, ces phénomènes de micro-agression ou de micro-violence de type raciste en posant la question aux personnes qui les subissent. Et non plus seulement donc, des questions aux personnes qui sont les éventuels agresseurs. La tendance actuelle, donc, c'est de s'intéresser au point de vue des personnes et des groupes discriminés et, comme on l'a dit tout à l'heure, aux personnes racisées, c'est-à-dire aux personnes qui sont prises, en quelque sorte, dans ce processus, dans un processus de catégorisation négative, de stigmatisation. On verra l'intervention tout à l'heure de Graziella sur le sujet, et qui sont dans les relations sociales et dans les relations ordinaires, très souvent quotidiennes, placées dans une position d'infériorisation, voilà. Ou en tout cas qui sont dénigrées, hein, et qui vivent une forme d'hostilité qui passe d'ailleurs souvent par des comportements assez subtils, hein, à peine perceptibles, que d'ailleurs les émetteurs, les personnes qui sont auteurs de ces comportements, ne perçoivent pas toujours, d'ailleurs, comme étant racistes. Hein. Je veux donner cet exemple parce que c'est une question qui a été posée dans l'enquête trajectoire et origine. C'est la fameuse question sur l'origine des personnes. Hein. Lorsque on rencontre une personne et qu'on la juge différente de soi, très souvent, on lui pose la question de quelle origine es-tu, où êtes-vous, voilà, en attendant comme réponse, non pas le nom d'un quartier ou d'une ville, hein, mais bien un pays d'origine ou éventuellement un continent d'origine. Voilà. Et bien, ces questions qui sont récurrentes, souvent dans la vie courante et dans la vie ordinaire, on va voir que dans l'enquête Théo, tout le monde ne les vit pas avec la même intensité. Et je dois d'ailleurs témoigner en disant qu'il est assez rare, si ce n'est sur la base de mon accent, que l'on me pose la question de mon origine, hein, pour ce qui me concerne. Voilà. Et donc, alors je vais maintenant aborder l'enquête Théo, faire une petite présentation rapide de l'enquête trajectoire et origine, en m'appuyant notamment sur un certain nombre de présentations qui ont déjà eu lieu concernant cette enquête. Alors, on l'a dit, c'est une enquête de 2008-2009, qui portait en fait sur 22 000 personnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'échantillonnage hein, de l'enquête, mais enfin, c'est une enquête qui suréchantillonnait, parce que c'était son objet, les populations immigrées et issues d'immigration, qu'on va appeler d'ailleurs dans le vocabulaire de l'enquête les descendants d'immigrés. C'est une enquête qui a été réalisée donc fin 2008-2009. Il va y avoir une autre enquête bientôt qui est annoncée, un TO2 comme on dit. Et l'objectif de cette enquête, c'était donc de décrire les trajectoires, les conditions de vie des immigrés en France et des descendants d'immigrés, c'est-à-dire en fait des enfants d'immigrés, qu'ils soient nés, ces enfants, à l'étranger et qu'ils soient arrivés en France seuls avec leurs parents, enfin peu importe, ou des personnes qui sont nées sur le sol français. Dans l'enquête, il y avait également un échantillon de personnes natives des DOM qui vivaient en métropole et des enfants de ces natifs des DOM vivant en métropole. L'intérêt de l'enquête Théo, donc, parce que c'était son objectif, analyser les trajectoires, notamment, et les conditions de vie des populations immigrées et descendantes d'immigrés en France, c'est de pouvoir détailler, ce que peu d'enquêtes, en vérité, parviennent à faire, autant que peut le faire Théo, ou a pu le faire Théo, c'est de détailler notamment les origines géographiques des personnes. Voilà. Et donc, on a pu conduire des analyses en essayant quand même d'appréhender les disparités, les différences entre différentes origines géographiques. On peut, par exemple, distinguer les personnes qui seraient originaires elles-mêmes ou par leurs parents d'Algérie, des personnes qui, par leurs parents ou elles-mêmes, seraient originaires, par exemple, des pays de l'Union européenne. Une particularité de l'enquête Théo, en plus de son objet, je dirais, de la population, c'est que dans le questionnaire, elle intègre à la fois, enfin, il y a à la fois une visée de mesures objectives des écarts ou des inégalités entre les groupes de population, et en même temps, la dimension subjective est intégrée dans le questionnaire. Et de ce point de vue-là, je dirais, l'enquête Théo est une enquête particulière et originale, parce qu'elle mêle en fait à la fois cette volonté d'objectivation statistique, hein, de mesures un peu dures, des écarts et des inégalités entre les personnes ou entre les groupes, et en même temps, elle prend en considération l'aspect subjectif des choses, et notamment, elle essaie de saisir, comme on peut le faire à travers ce type de formulaire, et on peut bien sûr discuter de l'intérêt de ce type d'approche, mais comme on peut le faire à travers de ce type de formulaire, elle essaie de saisir, au fond, l'expérience subjective, individuelle ou personnelle des enquêtés. Alors, il y a 8500 personnes qui ont été interrogées, qui étaient classées comme considérées comme immigrées. Je vais donner tout à l'heure la définition d'immigrés, mais enfin, c'est la définition conventionnelle. Hein, je pense qu'on l'a déjà abordé souvent dans ce séminaire. Ce sont des personnes qui sont nées étrangères en étant étrangères à l'étranger. 8500 personnes, ça représente à peu près 10% de la population en 2008-2009 des 18-60 ans. Hein. Il y a également un échantillon donc, de 8200 personnes de descendants d'immigrés, à peu près 12% de la population des 18-50 ans en 2008. Hein, ce sont des populations qui ont un poids à peu près comparable dans la population de la France métropolitaine. C'est une enquête qui ne porte que sur la France métropolitaine. Et puis ensuite, il y a donc les natifs des DOM et les descendants originaires des DOM qui représentent 2% de la population lorsqu'on les réunit. Et enfin, il y a un groupe qui va servir de point de comparaison, qu'on a intitulé dans le vocabulaire de l'enquête, et c'est une terminologie qui, je crois, aujourd'hui est devenue relativement courante, hein, qu'on a intitulé population majoritaire à la fois pour des raisons, je dirais, démographiques, parce qu'effectivement, c'est la population la plus nombreuse parmi les composantes de la population française, mais aussi parce que dans la problématique de l'enquête Théo, il y a la volonté de prendre en considération les relations asymétriques qu'il pourrait y avoir entre les différents groupes et cette population majoritaire, c'est-à-dire sans ascendance migratoire. Cette population majoritaire, elle est aussi en position, on fait l'hypothèse en tout cas, qu'elle est en position dominante et elle va servir notamment dans les analyses de points de comparaison. Voilà, donc immigrés, descendants d'immigrés, population majoritaire, je les ai définis, je reviens pas là-dessus, si ce n'est pour dire que la population majoritaire, c'est 76% hein, de la population qui vit en métropole, si on exclut les populations immigrées, descendants d'immigrés, natifs des DOM et descendants des originaires des DOM. Alors, dans l'enquête trajectoire et origine, il y a bien sûr eu toute une série d'analyses qui porte sur les inégalités, en fait, en fonction des origines, sur les écarts, ce qu'on peut appeler des écarts de situation, hein, des écarts d'origine, et qu'on peut éventuellement imputer, d'ailleurs, à des discriminations à caractère ethnique ou racial, ou discriminations racistes, comme on voudra, dans les différents domaines de la vie active. Donc ça, c'est une première approche. Hein, on analyse les écarts de situation. Je vais juste vous montrer un résultat parce que ce n'est pas le cœur de ma présentation. Et ensuite, il y a deux autres manières d'aborder la question des discriminations. C'est d'essayer de saisir les discriminations situationnelles et les discriminations autoreportées. Les discriminations autoreportées, j'en parlerai assez peu. Les discriminations situationnelles, je vais vous donner des exemples. En fait, dans le questionnaire, très concrètement, il y a des questions qui définissent des situations comme dans l'emploi, par exemple, et on demande aux personnes qui sont souvent des situations défavorisantes ou négatives, mais pas toujours, hein, et on demande aux personnes si elles ont vécu, en quelque sorte, ces situations, et à leur avis, pourquoi elles ont vécu ces situations. Alors, j'ai un exemple que je peux vous donner et qui me passe par la tête. On pose la question, c'est d'ailleurs une question qui est inspirée des enquêtes sur le travail, notamment sur les risques psychosociaux au travail. Il y a une enquête sur le dénigrement du travail, par exemple. Est-ce que dans votre activité professionnelle, on dénigre régulièrement ce que vous faites? Voilà. Et puis, il y a des gens qui disent oui. Et puis ensuite, on leur demande, à votre avis, pour quelle raison? Voilà, et on leur suggère un certain nombre de raisons possibles, parmi lesquelles, d'ailleurs, leur origine, leur couleur, hein, leur origine ou nationalité ou leur couleur. Et ils vont éventuellement répondre en disant qu'on dénigre leur travail parce que, par exemple, en raison de leur couleur. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les discriminations situationnelles, qu'il faut un petit peu distinguer des discriminations autoreportées. Alors, vous le comprenez bien, on fait appel à la subjectivité, bien sûr, des enquêtés et des répondants, mais qu'il faut distinguer des discriminations autoreportées, qui sont des questions où on pose plus directement... La question sur les discriminations aux personnes et qui arrive plutôt en fin de questionnaire. Pour aborder la question des discriminations situationnelles, il faut savoir que dans l'enquête, le terme de discrimination, pour ces questions-là, le terme de discrimination n'est pas utilisé. Hein, on parle de traitement différent. Est-ce que vous en traitez différemment au regard dans telle situation? Alors, les écarts objectifs dans Théo, il y en a quand même beaucoup, hein, en fonction des origines, et j'allais dire malheureusement, hein, c'est qu'on se rend compte que dans la société française et dans différents domaines de la vie sociale, il y a bien des écarts qui sont imputables aux origines migratoires et qui ne sont pas solubles, je dirais, dans les qualifications, dans les niveaux de diplôme. C'est-à-dire que généralement, dans les analyses, on tient compte de tous ces éléments. On fait ce qu'on appelle des analyses de régression, des modèles de régression multiples, à minima, où on va tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Donc on a d'un côté ce qu'on appelle des écarts bruts, des inégalités globales, si vous voulez. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, sur le chômage. Vous avez, si on prend la gauche pour vous du graphique avec les différentes origines, vous voyez qu'il y a quand même des taux de chômage, c'est un indicateur de chômage, enfin c'est assez proche du taux de chômage quand même de l'INSEE, vous voyez qu'on a quand même des taux de chômage très élevés pour les populations originaires d'Algérie, Maroc et Tunisie. On est là chez les descendants d'immigrés, hein, on n'est pas dans la population immigrée, c'est-à-dire ceux qui sont nés en France d'un ou deux parents immigrés. On a des taux de chômage quand même qui sont très importants, avec par exemple 27%, hein, pour l'Afrique subsaharienne, et on peut comparer à la population majoritaire où le taux de chômage est de 8%. Hein, vous voyez qu'on a quand même des écarts qui sont considérables. Ça, ce sont des écarts bruts. Et donc, les analyses statistiques, à travers notamment les modèles de régression multiples, permettent de voir si ces écarts bruts sont essentiellement dus, par exemple, à des inégalités tout simplement de formation. Hein. Puisque là, on a une vision très, très globale et très agrégée. Voilà. Et donc, on va tenir compte, effectivement, des différences de niveau de formation et de toute une série d'éléments, hein, qui sont disponibles dans l'enquête. Et on va pouvoir mesurer, au fond, ce qu'on appelle là des écarts nets. Alors, il y a eu des regroupements de catégories, et les écarts nets se mesurent notamment à la population majoritaire. Et on voit que, par exemple, pour le groupe qui se compose des descendants d'immigrés d'origine nord-africaine, Maroc et Tunisie et Algérie, bah, l'écart net, il est quand même de l'ordre de 5%, ce qui est quand même très important sur le niveau de chômage. Et c'est un écart qui est imputable essentiellement à l'origine migratoire, pas aux inégalités de formation qui, elles, sont déjà contrôlées. Voilà, c'est-à-dire que toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, il demeure un certain nombre de différences ou d'écarts en termes de chômage, inégalités de chômage. Ça, c'est l'approche qu'on peut dire objective, d'une certaine manière. C'est l'approche statistique assez classique qui fait référence à des variables plutôt factuelles. Et puis ensuite, donc, on a ce regard plus subjectif que l'on porte sur les discriminations, où on fait appel, en quelque sorte, à l'expérience des personnes, à la restitution de l'expérience des personnes. Et il y a toute une série de questions qui sont posées, donc, qui sont relatives à l'école, à l'emploi, aux soins. Et selon le procédé que j'ai évoqué tout à l'heure, les discriminations, enfin, ne sont classées comme discriminations que les traitements différenciés qui, en fait, pour lesquels les personnes nous disent que le critère incriminé, c'est l'origine ou la couleur. Voilà. Alors, les personnes elles-mêmes ne parlent pas de discrimination. Elles reconnaissent d'une certaine manière qu'elles ont été traitées différemment, mais sans dire qu'elles ont été discriminées. On ne leur propose pas le terme de discrimination. C'est à l'analyse, au moment de l'analyse, qu'on va reconsidérer, en quelque sorte, ces réponses et les qualifier comme étant des traitements discriminatoires dès lors que l'origine ou la couleur a été évoquée. Voilà, je vous donne là un exemple qui est celui de l'école. Vous avez des questions sur la notation, les décisions d'orientation, la discipline, la façon de s'adresser à vous. On pose la question, pensez-vous avoir été traité différemment des autres élèves, mieux traité, pareil, moins bien traité? Et refus, ne sait pas, toutes ces éventualités sont envisagées. La personne répond, par exemple, mieux traité dans la notation, et on va lui dire, ben, pourquoi? Voilà. Alors, il y en a très peu qui répondent mieux traités dans la notation. Il y a quand même un petit pourcentage de l'ordre de 3-4%. Ce sont plutôt les filles que des garçons, par exemple, qui considèrent qu'elles ont été un peu mieux traitées à l'école. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, notamment, c'est les personnes qui vont répondre négativement, c'est-à-dire moins bien traitées, et qui vont notamment, une fois qu'elles auront dit moins bien traitées dans l'orientation, je parle de l'orientation parce que c'est un des résultats de l'enquête. Il y a véritablement quelque chose qui est de l'ordre du ressentiment sur la manière dont on est orienté dans le système éducatif et le système scolaire français, à tort ou à raison. Mais je veux dire, dans la manière dont on est orienté dans le système éducatif français, lorsqu'on est notamment d'une origine nord-africaine ou subsaharienne. Et donc, lorsque les personnes vont dire moins bien traité en raison de l'origine, de la nationalité ou de la couleur, on va considérer, nous, que c'est un traitement qui s'apparente à une discrimination situationnelle aux yeux de l'enquêté, du répondant. Voilà. Alors, on a la même chose sur le travail, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Pour le travail, il y a le dénigrement du travail, mais il y a aussi les horaires, par exemple. Est-ce qu'on vous impose des horaires, par exemple? Ce sont des questions assez classiques qu'on pose dans les enquêtes sur les conditions de travail qui ont été reprises et qui donnent des résultats assez intéressants. Là, vous avez une vision globale. C'est un graphique que j'ai emprunté notamment à la présentation des résultats de Théo lorsque l'enquête a été rendue publique. Les résultats de l'enquête ont été rendus publics. Et vous avez ici, pour la recherche d'emploi, vous voyez, pour l'emploi et l'éducation, les niveaux de les déclarations de discrimination situationnelle. Vous avez en bleu la population majoritaire et en vert, ce sont les descendants de deux parents immigrés. Et vous voyez qu'il y a quand même des taux de réponse relativement importants, par exemple sur la recherche d'emploi, avec 33% de personnes qui répondent sur ces questions-là. On va aborder maintenant un petit peu le vif du sujet, après avoir présenté donc l'originalité, je dirais, de l'enquête Théo. C'est justement la question de l'expérience du racisme. Théo avait cette particularité, je crois que c'est la première fois dans une enquête de ce type, enfin qui est une enquête au fond multithématique de la statistique publique, de poser une question sur le racisme. Et il y a une question qui traite du racisme, qui essaie d'enregistrer, de capter en quelque sorte le vécu du racisme de la part des personnes qui sont interrogées. Il y a une première question qui est la suivante, c'est au cours de votre vie, avez-vous été la cible d'insultes, de propos ou d'attitudes ouvertement racistes en France? Et ensuite, il y a un certain nombre de questions qui suivent, qui succèdent donc, et qui notamment essaient d'enregistrer le lieu, les espaces, hein, où ce type de ce qu'on peut appeler des micro-agressions, hein, ou de d'hostilité a pu se manifester. Et il y a également la question des critères qui va être posée. Il y a une autre question assez intéressante. Une fois qu'on a posé la question sur avez-vous été au cours de votre vie donc avez-vous fait l'objet d'insultes ou d'attitudes ouvertement racistes, le terme est prononcé là, hein, il est mentionné dans la question. Il y a une autre question assez intéressante, c'est pour les personnes qui auraient dit non. Les personnes qui disent non, je n'ai pas été la cible d'insultes ou d'injures racistes, et on leur demande si elles pensent qu'elles pourraient être exposées aux insultes ou aux injures. Voilà. Et on va, je vous montre là rapidement comment ça se présente dans le questionnaire de l'enquête. Vous voyez, première question, c'est au cours de votre vie, hein, avez-vous été la cible d'insultes. Ensuite, il y a la question sur les espaces, sur les lieux. Pour les personnes, il y a un pas de temps. Et puis, il y a une question pour les personnes qui n'auraient pas été répondu oui, donc aux insultes et qui considèrent qu'elles n'ont pas été la cible directe d'attitude, de comportement raciste. Il y a la question, pensez-vous que vous pourriez être victime du racisme en France, même si cela ne vous est jamais arrivé? Et on a la question des critères. Alors, parmi les critères, dans la question sur le racisme, il y a un critère un peu qui a été ajouté, qu'on ne trouve pas dans toute l'enquête trajectoire et origine, et c'est peut-être d'ailleurs une erreur de ne pas l'avoir mis systématiquement, c'est le critère de la religion. Voilà. Et l'intérêt notamment de cette question, c'est de voir apparaître hein, ce critère religieux qui aujourd'hui semblerait à peu près évident hein, s'il fallait concevoir ce type d'enquête, mais qui n'était visiblement pas encore en 2008-2009. Mais je crois que ce n'était pas la faute des concepteurs, c'est qu'il y a eu des freins, je dirais, pour poser ce type de questions. On a là donc les résultats à la question sur le racisme en cours de vie. Hein, ce sont des pourcentages, hein, c'est un tri très simple en fonction des origines. Vous avez les immigrés et les descendants, et vous pouvez voir que quand même, à la question sur le racisme en cours de vie, ben, dans certaines populations, c'est une majorité, même s'il ne faut pas faire une lecture majoritaire des pourcentages, mais là quand même on va avoir recours à ce principe. Vous avez des groupes qui répondent majoritairement en fait. Hein, à la question sur le racisme. Je dois dire que lorsqu'on a exploité l'enquête, on a quand même été, bien qu'étant averti, on a quand même été un peu surpris par le caractère, je dirais presque massif, des réponses à ces questions. Hein, 58% lorsqu'on est descendant d'Afrique subsaharienne qui disent « oui, au cours de la vie, j'ai fait l'objet de racisme », bon, on se dit que c'est un phénomène qui est pas marginal. Enfin, c'est-à-dire que dès lors... Alors, bien sûr, c'est la manière dont les personnes le perçoivent. Enfin, on le restitue d'abord, le repère, on peut discuter. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un ressenti qui est là très fort. Voilà, on peut le voir aussi du côté, et là c'est un autre résultat, je dirais, de l'enquête Théo sur ce sujet, ce sont les réponses des personnes originaires des DOM. Hein, qui là aussi hein, restitue quand même très vive, je dirais intensément, en tout cas on le sentiment de vivre intensément précisément des expériences ou de racisme. Voilà, avec 52% pour les descendants. Vous notez dans ce graphique, on pourra y revenir si vous le souhaitez, que généralement les taux de déclaration des descendants sont plus élevés que pour les populations immigrées. On observe la même chose avec les discriminations situationnelles. Il y a généralement un écart entre immigrés et descendants d'immigrés. On a des hypothèses sur ces écarts qui renvoient en fait au degré d'acceptabilité de l'hostilité. Je veux dire, les immigrés sont des personnes qui sont nées étrangères à l'étranger et qui ont une, disons, une propension sans doute, une acceptation du fait que, bon, n'étant pas dans le pays d'origine, on peut accepter d'être l'objet d'une certaine forme de rejet ou en tout cas de mise à l'écart, vous voyez, des choses comme ça. Alors que lorsque vous êtes né en France, hein, que vous avez été socialisé en France, éduqué dans le système éducatif français, ben, y a sans doute une acceptation moins grande hein, de ce type de manifestation et de comportement. Là, vous avez un graphique, je vais aller très vite, mais qui, en orange, en fait, vous avez en bleu l'expérience directe du racisme. Oui, j'ai vécu des situations de racisme au cours de ma vie. Et en orangé, donc, les personnes qui ont répondu non à la première question, mais qui disent je n'ai pas vécu de situation de racisme, mais je pourrais les vivre. Voilà. Et vous voyez que, quand même, là, on obtient des résultats, si on agrège les deux, hein, avec, par exemple, la population d'Afrique subsaharienne qui, à 80-85%, va nous dire « Ben oui, enfin, le racisme, ça me concerne. Hein, » voilà. Donc, on a quand même là des résultats qui sont très importants. Je rappelle quand même l'échantillon de l'enquête, hein, 22 000 individus qui sont représentatifs de la population de la France métropolitaine. Et là, on a quand même des résultats qui sont assez massifs hein, concernant les populations originaires de l'immigration, avec des écarts d'ailleurs sensibles hein, entre notamment la population, par exemple, d'Europe du Sud, hein, qui semble quand même vivre moins le racisme que les populations originaires d'immigration d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne ou des DOM. Hein, voilà. Alors, un autre intérêt de l'enquête trajectoire et origine, c'est qu'elle portait notamment, lorsqu'on pose la question sur le racisme, on pose la question sur les critères incriminés. Pour quelles raisons hein, on vous a insulté, agressé voilà. Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est votre origine? Est-ce que c'est votre couleur qui était en cause dans cette agression ou dans ces comportements ou dans ces attitudes racistes dont vous avez été la cible? Et là, alors, vous avez le résultat d'une analyse factorielle des correspondances où on a tout simplement le croisement entre les origines migratoires pour les immigrés et les différents critères. Alors, on a un premier axe hein, qui est horizontal, et on voit qu'on a deux pôles, en fait, sur cette analyse qui est assez... qui est un peu un cas d'école. Hein. On a bien deux pôles. On a un pôle à votre gauche qui est celui de la couleur, où ce qui est incriminé, c'est la couleur, c'est le racisme de couleur. Hein. Et en bleu, vous avez les populations, les groupes qui se considèrent comme étant particulièrement concernés, en fait, hein, par ce racisme de couleur, ou qui peuvent éventuellement... avancé comme élément l'apparence physique. Et puis vous avez à droite donc du graphique, toujours avec une lecture horizontale, ben, les groupes qui sont, on va dire, racisés hein, en raison précisément là de... Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que la couleur dans le racisme, hein, qui sont racisés en raison d'autres éléments. D'autres éléments, l'origine, la nationalité, l'accent, qui est très présent quand même dans la population issue de l'immigration, et le nom de la personne. Et puis, il y a aussi le poids hein, de la religion. Et en fait, vous voyez, si vous regardez la droite du graphique, vous avez des populations qui, en haut et en bas, hein, je dirais, en haut à droite et en bas à droite. Et en haut à droite, vous avez notamment Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie. Et en fait, ces populations se définissent notamment, dans leur réponse, hein, elles se définissent notamment par un choix, par la surreprésentation du choix de la sélection, en fait, du critère religieux, comme critère en fait, comme critère racisant, et on comprend vite hein, que ce sont des populations d'origine musulmane qui répondent à ces questions. Donc, ce que permet de voir ce graphique sur les immigrés qu'on peut revoir, qu'on peut retrouver au fond dans la population descendante d'immigrés, voilà, qu'on retrouve dans la population descendante de l'immigration, c'est cette polarisation entre d'un côté, donc sur votre gauche, un racisme de couleur, et de l'autre, un racisme qui est beaucoup plus, on va dire, culturalisant, hein, qui dont les cibles, dont les marques en fait stigmatisées, hein, dont les marques qui sont stigmatisées dans les comportements racistes, ben, renvoient notamment à la religion, à l'origine, à la nationalité. Sans doute, il eût fallu détailler plus, d'ailleurs, les critères sur cette question. Ce qu'on peut tirer quand même comme conclusion, parce qu'on de rapidement de cette analyse, c'est d'abord, et on est en 2008-2009, hein, c'est d'abord la prégnance du racisme de couleur. Alors, c'est quelque chose, aujourd'hui, on en a, je crois, à peu près tous conscience, parce qu'il y a eu toute une série d'événements, avec notamment des injures et des insultes de ministres, qui nous ont rappelé qu'il y avait en France un racisme anti-noir hein, qui était assez virulent et toujours bien actif. Hein. Mais en fait, dès 2008-2009, on voit que du côté des populations concernées, hein, il y a, je dirais, une conscience hein, de l'existence de ce racisme de couleur. Et puisqu'on voit aussi dans ces résultats, ben, c'est les évolutions du racisme. C'est-à-dire que le racisme ne cible pas seulement les caractères morphologiques. Hein. Le racisme, c'est pas seulement la couleur, c'est pas seulement. Mais le racisme cible aussi ben, des marques qui sont plus culturelles. Hein. Et on a parlé d'ailleurs dans les années 80, lorsqu'on a analysé les transformations du racisme, on a parfois évoqué la notion de racisme culturel. C'est-à-dire, c'est un racisme qui cible en fait. Hein. C'est un racisme qui cible ben, notamment les différences religieuses, enfin différences entre guillemets, hein, religieuses ou culturelles, et qui stigmatise donc ces populations en vertu de ces critères, populations qui sont notamment identifiées très souvent par le nom de famille. Il y a d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus d'enquêtes qui posent la question sur le nom, par exemple sur la prononciation du nom. Ce qu'on ne posait pas dans TO1 comme question, mais il y a des enquêtes aujourd'hui sur le racisme qui commencent à demander aux personnes, est-ce qu'on prononce votre nom correctement ou est-ce qu'il est systématiquement écorché ? Voilà. Hein ? Et c'est quand même là aussi assez symptomatique de l'habitude ou non que l'on a dans le langage hein, de remarquer ou d'utiliser, de lire ou de nommer certaines personnes. Voilà, donc j'en viens à ma dernière partie. Oui, d'accord. J'en viens à ma dernière partie qui est un peu le débouché de cette présentation, c'est comment s'articulent au fond racisme et discrimination situationnelle. Alors pourquoi au fond cette question ? Cette question, elle se pose parce que le racisme et les discriminations situationnelles à caractère ethnique et racial, hein, les discriminations situationnelles à caractère ethnique et racial ont bien évidemment un air de famille. Hein, elles ont quelque chose en commun. Et d'ailleurs, dans les travaux des spécialistes, il arrive parfois qu'on considère que en fait, les discriminations, c'est les discriminations à caractère ethnique et racial, et dans ce cas d'ailleurs on parle très souvent de discrimination raciste, c'est du racisme en acte. On peut considérer que les discriminations à caractère ethnique et racial, c'est ce que, par exemple, Pierre-André Taguieff appelle le racisme comportement. C'est-à-dire que le racisme, c'est une idéologie, ça peut prendre cette forme d'une doctrine politique ou de doctrine idéologique, de corpus idéologique relativement construit, bâti. Ça peut prendre la forme, une dimension cognitive, la forme de catégorisation que l'on va employer dans la vie courante, qui vont faire appel à des stéréotypes et des préjugés qui sont souvent d'ailleurs enracinés, je dirais, depuis fort longtemps. Il y a là-dessus les travaux des historiens. Nous montre comment ces stéréotypes ont pu se former et sont réactivés régulièrement. Et puis, il y a les pratiques racistes, et notamment, alors qu'ils sont d'ordre très, très différent, mais qui consistent, notamment, qui se matérialisent, enfin, ces préjugés, ces idéologies ou ces opinions, elles se matérialisent notamment hein, bah, par des phénomènes ou par des pratiques qui sont des formes de pratiques d'exclusion, si vous voulez, ou de rejet de l'autre ou d'autrui. Et les discriminations à caractère ethnique et racial en font partie. Hein. La discrimination, c'est une inégalité de traitement. C'est une inégalité de traitement, enfin on peut donner cette définition un peu basique, hein, c'est une inégalité de traitement en vertu, notamment lorsqu'on parle de discrimination ethnique et raciale, ben, au nom hein, de critères qui, au nom de marques ou de critères qui s'apparentent à des critères raciaux ou à des critères ethniques. Une inégalité de traitement, c'est avantager un groupe ou des personnes et en désavantager d'autres. Hein. C'est faire un choix. Hein, c'est faire une différence entre les groupes de population, ce n'est pas les traiter à égalité, et ce n'est pas les traiter à égalité en vertu de critères donc qui sont racisés ou qui ont à voir en tout cas avec la racisation. Donc les discriminations à caractère ethnique et racial, lorsque concrètement dans des situations de recrutement ou d'embauche, on préfère des personnes d'une origine plutôt que d'une autre, et en particulier lorsqu'on on laisse de côté, comme on le voit dans tous les testings et les tests de situation, les personnes d'origine, plutôt les personnes d'origine nord-africaine, au détriment d'autres, par exemple, eh bien, on peut considérer que c'est une manifestation du racisme. Alors, le racisme, derrière, on comprend bien qu'il y a un enjeu, c'est bien la définition du racisme. Hein. Et c'est très difficile, au fond, de définir ce qu'est le racisme. C'est très difficile de donner une définition générale, synthétique, du racisme. En France, la tendance... Et d'ailleurs, c'est inscrit dans la loi, notamment dans la loi Plévin de 1972, c'est de considérer le racisme comme, au fond, un phénomène de haine. Hein, le racisme, c'est la haine des autres. C'est d'ailleurs très souvent qu'on en parle. Le racisme a d'autres aspects. Notamment, il a des aspects que l'on dit systémiques, hein, et qui renvoient à des formes un petit peu plus subtiles, voilées, je dirais, hein, de racisme qui ont à voir avec des différences que l'on fait, hein, en fonction des groupes, en fonction des individus, sans forcément d'ailleurs être très conscient des différences que l'on produit et que l'on provoque. Voilà. Alors, il y a des tas d'exemples qu'on pourrait donner, qu'on pourra redonner éventuellement dans la discussion pour expliciter ce que je suis en train de dire. Donc la question se pose de comment s'articulent racisme et discrimination, expérience du racisme en fait, et discrimination situationnelle. Est-ce que les personnes, notamment par exemple très concrètement, est-ce que les personnes qui répondent, qui donnent des discriminations situationnelles, est-ce que les personnes qui vivent des discriminations situationnelles, je cherche mes mots, pardon, est-ce que ces personnes-là déclarent une expérience du racisme ou non ? Ou est-ce qu'elles font la différence ? Est-ce qu'elles distinguent en quelque sorte les discriminations situationnelles ou les traitements différenciés en vertu du critère racial, hein, et l'expérience du racisme ? Alors, ce qu'on peut voir tout d'abord, on va regarder rapidement les immigrés et les descendants d'immigrés, c'est le parallélisme ou non des deux réponses, si vous voulez, des deux déclarations. En fait, on voit qu'il y a des groupes où, je dirais, le taux de déclaration, le pourcentage de déclaration sur l'expérience du racisme et sur les discriminations situationnelles dans l'ensemble de l'enquête, hein, là, c'est un compteur très général, les taux sont à peu près identiques. C'est l'exemple, par exemple, de l'Afrique subsaharienne que vous avez à l'extrême gauche du graphique, où on voit en orange, ce sont les discriminations situationnelles, en bleu, les expériences du racisme. Vous voyez qu'on a des niveaux à peu près équivalents. En revanche, il y a des groupes qui déclarent du racisme, mais très peu de discrimination situationnelle, qui ne se considèrent pas, enfin en tout cas qui n'avancent pas cette idée de traitement différentiel. C'est par exemple le cas de l'Asie du Sud-Est. Hein. Et puis il y a des groupes, notamment dans la population immigrée, où les discriminations, le niveau de discrimination est supérieur aux déclarations de racisme. Par exemple, les Turcs, plutôt à droite, hein, de votre graphique, avec 31% donc de déclarations sur les discriminations situationnelles pour 24% sur le racisme. Du côté des descendants d'immigrés, donc vous voyez que dans la population immigrée, les configurations en fonction des groupes, sont assez contrastés. Il y a une variété qu'il faut prendre en considération aussi dans l'analyse. Hein. C'est que ces phénomènes-là ne sont pas homogènes. Et lorsqu'on regarde les descendants d'immigrés, pardon, alors là, il y a quand même quelque chose de commun à tous les groupes, c'est que le niveau de déclaration de racisme est supérieur, hein, au niveau de déclaration des discriminations situationnelles. Mais là, c'est la concomitance qu'on a entre les deux phénomènes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est au fond la concordance ou la discordance dans les déclarations entre racisme et discrimination, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et on peut voir, alors dans ce graphique qui est un petit peu compliqué à comprendre, en fait, là, vous avez la part chez les immigrés en bleu et les descendants plutôt en orangé, la part chez les immigrés et les descendants qui ont déclaré des discriminations situationnelles, la part de ceux qui ne déclarent pas de racisme. C'est-à-dire que je considère avoir été traité différemment à l'école au moment de l'orientation en raison de ma race, mais je ne dis rien sur le fait d'avoir été la cible d'attitudes racistes. je m'abstiens, sur la question de l'attitude raciste. Et on a là, donc, vous voyez qu'on a là donc une analyse, au fond, des discordances entre les deux, deux phénomènes, ou les deux questions. Discordance qui est dans les têtes, d'une certaine manière. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la manière dont les gens, répondent. On voit que la discordance est beaucoup plus forte chez les immigrés que chez les descendants d'immigrés. Ça, c'est la première chose. Alors, bien sûr, la part de pourcentage, c'est pas un coefficient normé. Hein. Et tout ça dépend aussi du taux de réponse, global. Mais il n'empêche que chez les immigrés, il est plus fréquent, je dirais, de répondre discrimination situationnelle, mais on ne répond pas racisme, que chez les descendants d'immigrés. Alors cette discordance, elle pose question quand même. Hein. Elle pose question parce qu'elle montre qu'on fait bien la distinction entre discrimination, enfin en tout cas pour une partie des enquêtés, hein, y a une distinction qui est faite entre traitement négatif, hein, au nom de la race, de la couleur ou de l'origine, et expérience du racisme. Cette discordance dans la manière de percevoir, de se représenter les phénomènes que traduisent les résultats de l'enquête Théo, ont des répercussions sur la manière dont on peut envisager, et c'est l'objectif final de cette étude, la manière dont on peut envisager les enquêtes sur le racisme en France et une mesure du racisme qui prenne en considération notamment la dimension subjective du racisme, l'expérience du racisme. La question, très concrètement, c'est comment poser les questions, quelles questions poser. Ce qu'on voit déjà à travers l'enquête Théo, c'est que les enquêtés, les répondants, ont une faculté plus, ont une tendance à mieux identifier le racisme que les discriminations. Il y a entre discrimination et racisme un écart d'interprétation. Alors, comment expliquer cet écart d'interprétation entre phénomène raciste et discrimination à caractère ethnique et racial? Ben, la première chose, c'est un petit peu la raison que j'évoquais tout à l'heure. C'est sans doute, ce sont des hypothèses, c'est sans doute que le racisme s'identifie d'abord à l'agression, à l'hostilité. Hein. Le racisme, c'est d'abord l'hostilité. Et le racisme, c'est explicite. C'est une micro-violence, éventuellement, une micro-agression, mais ouverte, hein, qui est intentionnelle. Voilà. Il y a un motif, d'ailleurs, très souvent dit, il y a un motif raciste. C'est-à-dire, au fond, il y a un motif avoué. Voilà. Il y a quelque chose qui est avoué. Ce qu'il n'y a pas nécessairement dans la discrimination. Hein. La discrimination, les gens racontent, par exemple, quand vous faites des entretiens, ils vous racontent les discriminations à l'embauche. Lorsqu'on leur pose la question, est-ce qu'au moment de l'entretien, de recrutement, on vous a posé des questions qui étaient sans rapport avec l'emploi que vous alliez occuper? Et là, il y a des témoignages en disant, ben oui, on m'a posé des questions sur mon quartier, sur ma famille, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'emploi que j'allais occuper. Voilà. Donc, première hypothèse, c'est que le racisme est d'abord assimilé, je dirais, à des micro-agressions, à des formes d'hostilité et à une forme avouée ou explicite. L'autre chose, c'est l'échelle de gravité. Très certainement, et là-dessus, il faudrait d'ailleurs avoir des outils pour un peu mesurer ces choses-là. Le racisme est compris, hein, est envisagé comme étant plus grave, au fond, que la discrimination. Parce que, précisément, c'est une manifestation c'est une agression, une manifestation d'hostilité ou de violence. Et enfin, il y a un troisième point, et qui là interpelle, je dirais, la conception des enquêtes, et notamment des enquêtes statistiques. C'est la question de la conscientisation. C'est que les gens répondent au traitement différencié comme à la question du racisme que s'ils ont identifié, au fond, les situations comme pouvant être qualifiées, hein, de traitement différencié ou de racisme. Et donc, il y a en arrière-plan tout le travail, toute la recherche, ce qu'on appelle aussi la subjectivation, au fond, des discriminations et notamment du racisme. Et je dirais que sur ces questions-là, les recherches qualitatives sont très précieuses. Hein, je termine. Les recherches qualitatives sont très précieuses et peuvent nous aider à formuler donc de nouvelles questions et envisager, enrichir les questionnaires donc, pour mesurer le racisme. Et je vous remercie.
Voilà, vous avez un chercheur passionné qui a pris le temps qu'il fallait pour exposer la richesse de ses analyses, mais nous devons respecter l'égalité de traitement entre les deux orateurs. Et par conséquent, je donne tout de suite la parole à Graziella Moraes Silva.
Bonjour à tous et à toutes. Merci pour être ici. Merci à François Hérin pour l'invitation. Merci Jean-Luc pour le... J'espère que vous pouvez me voir. Je suis que je... Sinon, je serai ici. Mais merci Jean-Luc, je crois que ça va être une bonne liaison. Donc, parce que je vais commencer avec les enquêtes quantitatives, mais je vais surtout parler sur les entretiens. Mais je commence pour m'excuser de ne pas m'exprimer en français. Comme vous voulez, mon français, c'est encore dur pour faire une présentation de 40 minutes. So I will spare you from my bad French. I will just turn to English. So today I'm talking, I think, in the spirit of the seminar series on racism, and especially how do we respond to racism, or different types of racism, I would say. So I will take you to Brazil with some comparative elements to the US in particular. So we'll start with what I would call a puzzle which I think Jean-Luc has already alluded, in how can we really understand racism and discrimination? What are we actually talking about? So I think for a long time there was this idea, there's no consensus on what are we looking at. And one way to look at it is what Jean-Luc called the hard measures, which would be thinking about, is there racial inequality? Can we really say that there are differences between people who identify as black, white, or you could say even like racialization of religion in Muslims? And in the case of Brazil and a few other countries, especially Brazil, US, and South Africa, we have actually statistics and we have collected data on racial identification for most of the 20th century. So we can actually say that there is a lot of racism measured as racial inequality. And that type of measure that has been collected for so long, it's been kind of stable. And in the case of Brazil, despite what I'm going to talk a bit later, that the idea that Brazil is a country where racism would be less, when you actually look at racism in terms of racial inequality, one could claim that racism in Brazil is actually more striking than racism in the US. The statistics basically compares the ratio of income between whites and blacks. It's important to say, I don't know how familiar you are with the racial classification system in Brazil. In the census question, we ask people to identify as either white, brancos, brown, or pardos, and black, or preto. And the most common measure that's been used historically in Brazil is to put together people who identify as pardos, browns, and blacks, pretos, as one, and identify them as black Brazilians or negros, as the political category would claim it. So this is one portrayal of Brazil as a country that is extremely racially unequal. But some of you might be familiar with another portrayal of Brazil, which is a portrayal where Brazil, it's actually described as a country where discrimination or racial discrimination is not as striking. And we can find resonance in that when we look at the type of survey research that Jean-Luc was alluding to. In fact, when we ask black Brazilians in national surveys if they've ever been discriminated against in any realm of their lives, only 20% of those who identify as black and brown claim to have been discriminated against. And I put there in contrast to African Americans in the US, where nearly 80% of African Americans claim to have been discriminated against. So this really creates a puzzle, and a puzzle that has really divided the country in many ways. So a lot of people have claimed that we should not think so much about racism and race in Brazil because it's not perceived as a problem. The problem would be overall a problem of inequalities, and inequalities that should be fought against in terms of language of class and other things. But it's very hard to put this picture together, and that has created actually different explanations. So Some of you might be familiar with the idea, as I mentioned, of Brazil as a racial democracy. That's been actually the official way that Brazil has portrayed itself, especially in international realms, for most of the 20th century. The idea of racial democracy, it's very hard to actually, beyond this official ideology, it's very hard to say exactly what it means. But the idea is that race is not the most striking feature of the country, that people mix and get along very well, and that race would not have an outstanding impact or would not be the determining factor to define people's lives. This, as I said, has been the main narrative. But of course, it's also been very much criticized. And when we look at the most recent research, what we find is first, I probably should say that the term racial democracy, it's largely attributed to Gilberto Freire, which some of you have heard about. And it portrays the history of Brazil as a history where slavery was much more friendly, let's say, especially due to the Portuguese inheritance. So the Portuguese would have come to Brazil and the way that they treated the slaves were much more open and with reason for, with space for them to mix, and there was much more manumission rates. So it was almost as the slavery process in Brazil was a process that, yes, it was part of our history, but it was overcome without a lot of tension and without a lot of fights, let's put it that way. So this has led to a lot of research comparing Brazil and the US, especially comparing slavery regimes. Once you start to have this portrayal of the slavery, you really start to see that that was not really the case, right? So then it starts to sort of question this idea of the racial democracy as a historical process. But in addition to the idea of the history, there's also the idea that that people would be able to mix because they would get along in a very social way. So in that sense, although you would have racial inequality, there was not really a problem in terms of the symbolic boundaries, let's put it that way, between whites and blacks. So people identified very similarly. And that can actually be a way which racial democracy still defended. But nowadays, I would claim that, and most people who are in academia don't believe the idea of a racial democracy, don't take it at face value, especially because of all the historical evidence that shows that slaves in Brazil died much more than in other places of the world. We had the highest rate of slaves that came to Brazil, almost 10 times more slaves than in the US, and the rate of slaves that would die in Brazil was basically 1 in 2. So this idea of a more friendly or more easygoing type of slavery really doesn't hold, and there are many historians who have looked into that. Nowadays, this idea also doesn't hold when you look, for example, in killings by the police, and you actually see that being black or white in Brazil, it's really an issue of life and death in a very direct sense. There are a lot of people who talk nowadays about the genocide of the black population because I don't remember exactly the rate, but it's nearly 80% of the people who are killed by the police in Brazil are brown and black. In addition to that, because we have the census data for the 20th century, it's very easy to see that although there is this idea that this inequality is something that would be improving, once you look at it through time, it's actually quite stable. There's been very little improvement, and during some periods, there's actually been a growth in the inequality between blacks and whites in Brazil. And when you look at chances of social mobility, for example, it's very clear that whites have higher chances of upper mobility than blacks. In addition to that, inequalities are especially strong at the top of the stratification system, which really contradicts the idea that that would be a class issue and not a race issue. So when you look, for example, at people who have higher education, the income differences at that top, it's actually much higher than on the bottom. So usually people who have a higher education would even get like three times, the whites gain three times more than blacks with higher education. So that really contradicts this discourse that it's all about class in Brazil and not about race. But of course, Maybe due to this type of discourse, more and more racial democracy started to be defined as the myth of racial democracy. And that myth of racial democracy, according to a lot of the Black movement activists, but not only, also part of academia, created a type of false consciousness in Brazilian Blacks, which would explain that difference that we saw between racial inequalities of perception of discrimination. So basically, if they, for the people who defended racial democracy, the difference between inequality and perception of discrimination was caused by the lack of racism and discrimination, for the people who defend that who see this gap as a myth of racial democracy or false consciousness, that would be because Blacks in Brazil are not really aware that they are being discriminated against because they were socialized into the idea of racial democracy. This type of explanation got very strong since the 60s, partially in reaction to a lot of studies that debunked the idea of racial democracy. But as most ideas of false consciousness, it has a lot of problems, particularly because it does not give attention to how people see and justify reality beyond their idea that analysts are able to see much better than common people. It also underplays the role of the Black movement in Brazil, which has been active since the beginning of the 20th century, denouncing and organizing people. And in addition to that, it doesn't pay attention that the idea of consciousness should not be only taught in terms of the Black consciousness as it's usually portrayed in the US. There's always been Black activists who have been very active in other realms, maybe through labor organization and other types of organizations, as Tiana Pachel puts it, that have been underplayed in this idea of false consciousness. So one has to be very careful with buying into this idea that people are not seeing discrimination. And more, and I think here I resonate what Jean-Luc said, people have started to pay attention on how people understand their racialized realities. How do we interpret it? Is it really because they are saying that they are not discriminated against, that they are just not seeing racism and discrimination in Brazil? And I think along those lines, there is this idea that people are gaining consciousness, which resonates a bit with the false consciousness idea, but that this is part of a broader transnational process. More and more, the language of racism, the language of discrimination, is being made available in situations and in a country where that was not available yet. So this has been creating a change, and there's a lot of people who believe nowadays, a lot of scholars, that the awareness of discrimination is a consequence of this transnational process, which I think also resonates with some of the results of Jean-Luc and might be one of the reasons why the descendants of immigrants also might be able to express themselves much more often in the language of racism and discrimination, something that their parents didn't have available to them. We have to think about technologies and everything. But I think all these explanations, and especially the last one, really pushes us to look at how people are interpreting and how people actually understand racism. Is it really the same reality? How do they see that reality in terms of discrimination? So that was the goal of this book, which was a comparative study of relying on 500 interviews in the US, Brazil, and Israel. The interviews were conducted with African Americans in the US, Israelis. So in Israel, it was a bit complicated. It was Mizrahim Jews, Ethiopian Jews, and Palestinian citizens of Israel, and Black Brazilians in Brazil, especially in Rio de Janeiro. I'm not going to talk so much about the comparative elements. I'm going to focus much more on Brazil, because I really want to unpack this different way in which the Brazilians are interpreting race and racism, in particular because I think there are a lot of parallels with the way that we discuss race and racism in France. So the interviews were conducted, again, with people who identified as pretos and pardos in Rio de Janeiro, and we divided the interviews in two groups of 80 people who we call working class, which would be a precarious middle class, so people who have high school degrees and formal jobs, and what some people would call upper middle class or middle class, depending on how you define it, but people who have BA degrees and are largely in professional jobs. And our idea to focus on these two groups was exactly to unpack if there was a difference in how people see race and racism, depending on the class position they are at, which is key in such an unequal country as Brazil. The idea, again, was to unpack how racism is experienced. So beyond simply asking them, have you ever experienced discrimination? Do you think Brazil is a racist country? It was really to understand, how do they see racism? Do they see it as a problem? Why do they see it as a problem? And one important aspect of this research is to really try to understand how do they see racism should be addressed? Both at the individual level, how do they think they should address racism, how they have reacted to racist situations, but also how do they think the state more broadly should address racism, which is something that we claim in the book has not been looked so closely. We talk a lot about is there racism, is there not racism, but we talk much less about how people who are being directly affected by discrimination and racism think it should be dealt with. So that was an opportunity and an important contribution that we hope we made. It's important to say, and here I'm really differentiating myself from Jean-Luc, that I'm relying on in-depth interviews, so I know that I cannot make claims about statistical significance and things like this. But we are interested in the way that people, the cultural repertoire, so the way that people create those narratives, because we really think it's important to understand how people justify and understand their social reality in order to really address this as social issues. So, in a way, we are not trying to answer here, is there racism in Brazil, is there not racism in Brazil, is racism worse or better than in the US? What we are trying to understand is how the racism in Brazil is experienced in a different way than the racism in the US, in Israel, or in France. So we'll start with some of the results. One of the first questions that we are interested in is, do they see Brazil as a racial democracy? Is there still the possibility that those people we were interviewing were understanding Brazil as a racial democracy? And of course, this is not an easy answer. Racial democracy, in many ways, is a jargon or a term that belongs much more to academia than to common people. But what is clear is that when we ask people if there was racism in Brazil, nearly everyone agrees that there is. And that's not really big news, because we know from other surveys in Brazil that when you ask people in Brazil, you think Brazil is a racist country, 99% of the people claim that Brazil is a racist country. But when you ask people, do you think you are racist, only 1% of the people say that they are racist. So either this 1% is discriminating against everyone, or there's something really weird going on. So in a way, this resonates in our data. There is this perception that there is racism, there is racial inequality, and there is discrimination in Brazil. But we also try to address this question by asking them, how do you think the racism in Brazil compares to other countries, in particular South Africa and the United States, which are the most common reference points to discuss race and racism in Brazil? And here, the responses were actually very interesting. Again, they were very divided. I'm not trying to say that the majority thinks about this or that, but I'm trying to understand why and how they would see those differences. So in the case of the US and South Africa, those who thought that Brazil was a better country than the US and South Africa would claim that at least here we mixture. So the idea of racial mixture is a way in which the idea of racial democracy more broadly, it's still very much salient in the minds of those black interviewees. They really believe that mixture is a way to solve racism and discrimination, and they think that it should be valued. They are very much scared of the types of policies, I'm going to discuss this a bit later, that would separate people and really put them in boxes that are completely different. On the other hand, they were also very much critical of the idea of, and thought that in many ways racism in Brazil was worse than the US and South Africa. And they would claim that one of the reasons why that was so is because the fact that race and racism were not discussed openly really made it very hard for them to point it out. While in countries like South Africa and the US, they claim, and quite a number of interviewees claim that, the fact that the racism was so blatant was what allowed blacks to organize, and in the case of the US and South Africa, at that point of the interviews, have Obama as the president, and in the case of South Africa, the power of ANC and all that. So there was a kind of a mixed type of box there. So on one hand, they really valued certain aspects of Brazilian race relations, but on the other hand, they were very clear that there were particular problems with the type of racism that we experience in Brazil. So in nearly all the interviews, terms such as subtle, masked, and veiled racism emerged, and people repeated them over and over at something that was very hard to say. They would claim in the interviews, I see it, I know there is racism, but it's very hard to make it open, which really shapes the way I'm going to discuss next, how they respond to it. Did they report discrimination? And then it's an interesting, one interesting thing that we tried to do in the Brazilian interview, although because it was a comparative project, we relied on the same interview schedule across the three places. In the Brazilian interviews, we decided to actually change the interview schedule a bit and not tell in a way, I asked permission for the human subject at Harvard to do that, but we didn't tell them that this was an interview about race and racism. We told them that it was an interview about trajectories of social mobility. And in a way, we were lying to them, between quotes. At the end of the interview, we actually told them what the interview was about. But in the beginning, we wanted to see if race would appear spontaneously. How salient was race when they were talking about their own lives? And in a way, we are trying to avoid a big debate in Brazil that is the category of race and racism is being imposed by researchers into the people who we are talking to and interviewing. And the way that we did the transition is that at the halfway through the interview, we would ask people, have you ever been treated unfairly? Which really resonates with the type of questions Jean-Luc was saying. And if they didn't mention race, then we would ask, do you think this had anything to do with your skin color or your race? The interesting part is that it's true that in a lot of the interviews, race did not come up spontaneously up to the point of unfairness. So it's almost like race was not the main repertoire that they had to tell us about their experience at school, at the universities, at work. But once we asked them, do you feel you have ever been treated unfairly? That's where race would really come up and become a very strong repertoire that they would mobilize to discuss those experiences. On the other hand, they would really conflate and use the language of race, but also the language of class. A very common way that they would describe it is that because I'm black, I'm treated as if I'm poor. So it was that was one of the most common ways in which the experience of racism would be. Because people see me as black, they just assume that I have no education, that I might be someone who is stealing something, but it's really this link. It's more actually the low middle class. It appeared a lot in experiences of consumption, in access to high middle class types of things. And that really illustrates something that it's very particular maybe about Brazil, but sadly with the growth of inequality all over the world, I think everywhere, a kind of naturalization that class status or poverty really denies access to certain rights. So a lot of those interviewees, basically what they were claiming is, I have social mobility, I have studied, but I'm not gaining the benefits of having had that social mobility because I'm black. So in a way, it's kind of a mixed type of narrative because on one hand, you naturalize class stratification and you really claim that the problem is that once you move up, you're not gaining the benefits that you should be because you're black. And in the book, we also make this interesting distinction between stigmatization and discrimination. And what we found is that oftentimes when we ask them, have you ever been discriminated against? A lot of them, resonating the survey research, would say no. And that's because they understand discrimination as a point of their lives in which they were denied access to certain spaces or denied access to certain types of resources. So they really don't think that the fact that they were black really created that type of boundary. And that's where, for them, discrimination is really related to the type of Jim Crow discrimination in the US or the type of apartheid in South Africa. So for them, that was not what was happening in Brazil. but they were very often claim experiences of what we call stigmatization, or in the book we also call it assault on worth, which is situations in which it's not clear the consequence of that experience in denying them resources of access or social mobility, but it was clear to them that they were being treated unfairly, and that would have consequences, for example, for their self-esteem and other things. But they really differentiated this idea of discrimination and stigmatization in their narratives. So we have a lot of reports of doctors being treated as nurses, people who have who are in intermarriage couples, who have a lighter-skinned daughter or son who are assumed to be the nanny of the son. We have a director of a big company in Brazil who is black, who would arrive into meetings with other people, and people would assume that he was the IT guy. Those experiences were really like full, happened a lot in the interviews. But oftentimes when we probe them on, so do you think that was discrimination, they would say, well, at the end it was a misunderstanding. It's very annoying, it's very uncomfortable, but it didn't really bring the type of consequence of being denied resource. And a lot of the people, of course, who were upper middle class would claim, I would still get the professional job, I still was able to do it. But there was a very important distinction that emerged that kind of explained why they are not saying that they are discriminated against. And then I'll go to the point of responding. How do they understand this idea, that the responses, and how, given the way that they understand racism and discrimination, they think it would respond? And when we asked them in a blatant way, how do you think you, or when they were telling us those experiences, oftentimes they would say, of course I confront it. And this you have to understand it a bit as in a social psychology type of way. Because of course, if you feel you're being treated unfairly and you say, I didn't confront, that is a very uncomfortable situation to be in. So oftentimes when we ask them, how did you react or how do you think you should react? Most people say, I confronted. So there is a very good example from this one of the doctors that we interviewed who said that one day he was in this in a meeting or treating a patient with other colleagues, and someone turned to him and used a very Brazilian expression, which is, you're a black man with a white soul. And he immediately reacted saying, well, I don't think souls have color, and if my souls have color, I will want mine to be black. And when I asked him, but didn't you really confront them? Didn't you say that's a racist expression? And his reply was very, for me, very illuminating of the way that he understands confrontation, and that a lot of the interviewees understood confrontation, which is you cannot react in a violent way because you create difference, you create distance, you create this very, you create division. Mostly, you have to react in a way that it educates the people, that the white people especially can understand what racism is about. So for me, it was interesting that the confrontation, even when confronting, still had this idea of cordiality that a lot of the Brazilian social relations are based on. So there was this idea of educating the racist, which is very much puts the responsibility of reacting to racism and responsibility of addressing racism into the people who is being discriminated, because they are the ones who are supposed to educate the whites. But because a lot, as I mentioned earlier, a lot of the experiences with racism and discrimination were experiences where race and racism was not said openly, oftentimes people would tell us experiences where it was very hard to react to racism, because if you call out something racist when race was not said or directly mentioned, you would be the one accused of racism. So bringing up race in a context where race is not said can create almost a backlash of you being accused of being paranoid and seeing race and racism everywhere. So there is this very nice, sad, but I thought that the reaction was very good of the woman who I'm going to tell you, which is she was a research on nuclear physics, And she lived in Copacabana. I don't know how many of you have been to Brazil, but it's a very upper middle class neighborhood, the most touristic probably neighborhood in Brazil. And she was coming back from the supermarket. She was actually going to have a dinner party at her house. She was with bags, walking home. And as she's walking on the street in Nossa Senhora de Copacabana, two old white ladies stop her to ask if she's looking for a job, because they really need a maid. And she said that she was shocked, and a lot of people said that, well, one of the hardest things about racism, it's like being robbed. You never know when it's going to happen to you. It's something that really gets you off guard. So she puts her bags down, and of course she's very mad, but she says, I cannot yell. Again, this idea of management of the self. If I become the angry black woman, then I'll be accused of being racist. How do I actually react to that? And she puts it down and said, well, how much do you pay? And the woman said, well, one minimum wage. And then she's like, oh, that doesn't even pay my phone bill. If you agree to pay me 10 minimum wages or 20 minimum wages, I'm willing to consider, because that would be more than what I make. So she really created that situation that made the woman, of course, uncomfortable. I asked her, do you think she realized what she was doing? And she was like, I'm not sure. I hope she did. But I felt that that was the only way that I could react to that situation without being labeled as the angry black woman. And there are a lot of instances where people really find a way to signal the misunderstanding without mentioning race. But of course, that puts, again, a lot of burden on the people who are experiencing racism and discrimination themselves. And finally, there is this, a lot of people who basically claim that they could not respond. And there is the last story that I'm going to tell you, it's about a journalist who is covering a big event in Brasília, which is the capital of Brazil. And because she's in a big newspaper, they put her in a 5-star hotel to stay the night. So, and she covers the event, and then she goes back to her hotel after the dinner party on the cocktail. It's midnight, 1 a.m. She gets to the hotel very well dressed. She looks at the reception and says the number of her room. 501, 503. The receptionist, instead of giving her the key, picks up the phone and calls the room. As nobody answers, he looks at her and says, I'm sorry, he's not answering. And she looks at him and says, no, it's my room, I want the keys. And she says there is a moment of very, like, weird interaction, and he gives her the key. And then I probed her, I said, why didn't you confront him? And she says, nothing was said. What would I tell him? You were assuming that just because I'm a black woman, I am a prostitute. I cannot, if I said that to him, that would create a type of interaction, because he didn't say race. I cannot prove that he was being racist. So she says how that was a very hard for her. She was devastated, she cried the whole night. She actually says it, I had a great evening, and he destroyed everything in a 5-second interaction. So that really creates, and then one of the things that actually she pointed to me, she said, and that's the hardest thing, you experience racism, but you cannot talk about it. And that really makes racism invisible to a lot of people. And that's where the idea of subtle or silent racism makes racism invisible, because it's very visible for people who are experiencing it, but because the language of race and racism cannot be said, it really censors people who are experiencing this racism to mentioning it, and makes it invisible to the widespread society, especially for white people who are not having these experiences. I want to conclude by really pointing out to this idea that when we talk about race and racism, I think it's very important to unpack the idea of race and racism. I think for a long time, a lot of the literature discussing racism in different places was very worried about, are we more or less racist than this and that society? And in that sense, South Africa and the United States were very easy cases to point at. It was very easy to say, apartheid, South Africa is racist, Jim Crow, the US is racist. But that really made those cases of exemplary racism. But we are not seeing that there are different types of racisms, and that they are experienced in very different ways. And also, I would be careful to say, on the other hand, this idea that certain people, like the civil rights in the US or certain social movements, are more conscious or less conscious than others. I think there are very different ways to react to racism. People are oftentimes conscious of racism, but the type of repertoire and the types of, from public policies to cultural repertoires that they have available to themselves to react to racism are very different. And I think one of the things that the book shows very well with the three examples is that people react with the tools that society, in a way, the cultural tools that society offers them. I think it's very important to focus, and I think this I really echo what Jean-Luc said, how people conceptualize and experience racism. And I think one of the reasons why there's been a turn to the subjective turn that he mentions is because once we impose a definition of what racism is, and try to understand, is there racism, we are really not allowing the different forms that this very complex social process is happening. So I think one of the reasons behind the turn to subjective perceptions is that really, especially of those who are stigmatized and discriminated against, is that it allows us to see how it's being reproduced despite a language and a consensus that racism is something bad. But that's not enough. And oftentimes when we come from a top-down description of what racism, we are imposing what we think this is this bad thing. But there are other processes that are going on that are much less evident to analysts. So focusing on how it's conceptualized and experienced is a good way. And I think also to think about how racism can be resisted and the everyday strategies that people have to resist it is very important. And also, this should not be a burden of only people who are stigmatized and discriminated against. I think we, as white people, have to be very aware of the ways that we are silencing racism and the way that we are censoring race and racism to be talked about. I had this final graph just to say that I think the idea of perception and inequality very much varies. There I bring the case of South Africa. I wonder how it would be now with the data of Jean-Luc, where would be France in here? But I think this would be for another talk at another moment. Thank you.